VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Ouagadougou, 13h à Libreville, bienvenue à notre journal. Le président américain Barack Obama arrive aujourd'hui au Kenya, pays natal de son père, pour participer au sommet mondial de l'entrepreneuriat à Nairobi. Sa deuxième étape en Afrique, Addis Abeba en Éthiopie. Plusieurs organisations de défense des droits humains, dont Human Rights Watch, accusent les gouvernements de ces deux pays de violation des droits de l'homme et exhortent le président Obama à promouvoir le respect des libertés fondamentales pendant son séjour en Afrique. Idrissa Sedoudia.
Le chef de l'exécutif américain se promet de mettre l'accent pendant son périple africain sur la croissance économique. Elle dépend, souligne-t-il, de la bonne gouvernance, d'institutions démocratiques fortes, de la liberté d'expression et de presse, d'une vigoureuse participation de la société civile et du respect des droits de l'homme. Certains pays africains ont fait des progrès impressionnants dans ce domaine, mais d'autres pas, a écrit M. Obama dans une contribution aux routes, un site web essentiellement africain-américain. Sa visite, a-t-il ajouté, sera l'occasion d'aborder ces questions sans ambages, publiquement et en privé, dans ses conversations avec ses hôtes. Outre la menace terroriste que fait peser sur la région Al-Shabaab, la milice islamiste somalienne.
Au Burundi, la Commission électorale nationale devrait annoncer les résultats des présidentielles à 13h temps universel, soit dans moins d'une heure. On s'attend à une victoire du président Pierre Nkurunziza dans ce scrutin boycotté par l'opposition. L'Union européenne envisage de prendre des sanctions contre le gouvernement burundais pour avoir organisé des élections non représentatives, a fait savoir hier Federica Mogherini, la chef de la diplomatie de l'Europe, Bouda Rachid.
Les résultats officiels de la présidentielle burundaise controversée du 21 juillet sont prévus aujourd'hui. Bruxelles estime qu'en l'absence d'un dialogue substantiel pouvant conduire à un consensus national, le Burundi parviendra difficilement à restaurer la démocratie et la stabilité. L'Union européenne compte donc actionner pour une période pouvant atteindre 120 jours l'article 96 de l'accord de Cotonou qui s'applique lorsque les engagements démocratiques ne sont pas respectés par des signataires. Celui-ci prévoit notamment l'arrêt de la coopération. En attendant, l'Union européenne exige le retour immédiat de l'opposition au dialogue pour une sortie de crise et un retour à la démocratie.
Au Gabon, les enseignants et chercheurs sont en grève depuis lundi à l'université Omar Bongo de Libreville, établissement qui connaît depuis longtemps des moments difficiles après une période fastueuse ayant duré jusqu'aux années 1980. Des détails avec notre correspondant dans la capitale gabonaise, Jean-Rovis Dabani.
Ils réclament le paiement de leurs primes et l'augmentation de leurs salaires. Près de 250 enseignants sont directement concernés. Clotaire Messimena enseigne l'histoire à l'université Omar Bongo.
Nous revendiquons nos primes d'installation de la recherche que nous avons perçues depuis deux mois maintenant. Nous revendiquons aussi les bons de caisse, c'est-à-dire nos salaires du mois de mai qui n'ont pas été payés jusque-là. Le gouvernement nous reproche d'avoir pas travaillé ce mois. Or, les attestations de présence au poste attestent effectivement que nous avons travaillé ce mois. Donc nous revendiquons que ce mois nous soit effectivement payé. Pourquoi nous faisons un sitting ici au niveau de l'université, qui est la mère des universités du Gabon, pour montrer à l'opinion notre mécontentement face à ce traitement arbitraire du gouvernement.
Cette grève intervient alors que plus de 20 000 écoliers se préparent à passer le baccalauréat à partir de lundi. Et réunis en assemblée générale jeudi, les enseignants qui restent ouverts aux discussions ont décidé de boycotter cet examen. Patrick Mumbo est le secrétaire général de l'un des syndicats des enseignants du primaire et du secondaire.
L'action que nous avons, disons, posée aujourd'hui consiste à boycotter le baccalauréat. Ce boycott est lié à un certain nombre de faits, c'est-à-dire la rétention des salaires aussi bien au niveau de l'éducation nationale qu'à l'enseignement supérieur. Il se trouve qu'à l'éducation nationale, depuis le mois de mars jusqu'à maintenant, plusieurs enseignants, en l'occurrence les leaders syndicaux en majorité, sont privés arbitrairement et illégalement de leur salaire.
L'université Omar Bongo, sans moyens et souvent mal gérée, accueille les étudiants boursiers de l'État appartenant au groupe sociaux les plus vulnérables, enfants de paysans et d'autres travailleurs aux conditions modestes. Ceci avec une maigre bourse, raison pour laquelle la grève est devenue l'unique moyen de pression contre le pouvoir. Originaire du sud du pays, Ornella, étudiante à la faculté de droit, vient d'une famille rurale pauvre. Pour elle, il ne fait aucun doute, ces grèves chroniques sont une volonté manifeste du pouvoir.
C'est une volonté manifeste des autorités de maintenir les étudiants dans ces conditions, dans la mesure où ils connaissent quelles sont les revendications des étudiants et ils connaissent quelles sont les portes de sortie, quelles sont les solutions pour remédier à ces problèmes, mais ils restent les bras croisés.
Signe de ce malaise, les gendarmes assiègent le campus depuis bientôt 2 ans. Les résidences universitaires ont été fermées pour des raisons de sécurité, selon les autorités rectorales. Mais pour les nombreux étudiants, cette décision visait à les contraindre de rentrer chez leurs parents, car le gouvernement, disent-ils, les soupçonne de prendre part aux contestations contre le pouvoir. Malgré la multiplication des universités privées qui sont complémentaires aux institutions publiques, force est de constater que les conditions étudiantines ne sont pas du tout améliorées. Les étudiants ne vivent que de la bourse du gouvernement, 83 000 francs CFA par mois, qui tombent souvent en retard, pendant que les enseignants débutants touchent eux la somme de 250 000 francs CFA, l'équivalent d'un loyer. Libreville, Jean-Revis Dabani, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Bénin, le marché des alliances politiques grand ouvert pour l'élection des maires et de leurs adjoints après la proclamation des résultats des élections municipales et communales. Des précisions avec notre correspondant à Cotonou, Peggy Ludovic Dagba.
Les nouveaux élus seront installés dans les tout prochains jours dans leurs fonctions par les préfets et procéderont ensuite à l'élection des maires, ce qui passera forcément par le jeu des alliances. Mais une question subsiste. Ceci se fera-t-il dans l'intérêt des populations? Réponse de Lancelot Aguiar, il est membre de l'alliance ABT.
Les gens avec qui il faut discuter sont des Béninois. Ont été élus conseillers dans cette localité-là. Donc les alliances ne peuvent être que sur l'autel de l'intérêt supérieur de population à la base.
Encore 10 jours et le marché des alliances sera ouvert dans les mairies du Bénin. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Au Niger, à peine annoncé, le chronogramme des élections de 2016 divise la classe politique. L'opposition jugeant les dates choisies favorables au pouvoir parce que les présidentielles sont prévues avant les élections locales. Des détails avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Le chronogramme prévoit le premier tour de la présidentielle pour le 21 février 2016. Il sera couplé aux élections législatives. En cas de second tour, le scrutin aura lieu le 20 mars 2016 et c'est en mai, le 19 précisément, que les élections au niveau communal, départemental et régional seront organisées. Ce chronogramme a été adopté de façon consensuelle selon des sources proches de la Commission électorale nationale indépendante par l'ensemble de ses membres au cours d'une session plénière. Les partis politiques de l'opposition crient au scandale. La Commission électorale nationale indépendante a expliqué le choix d'un tel ordre séquentiel des élections par des contraintes de temps et de disponibilité du fichier qu'elle n'aura que vers la fin du mois d'octobre. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
L'affaire des déchets toxiques en Côte d'Ivoire impliquant la société Trafigura en 2006 rebondit 9 ans après le déversement des déchets à Abidjan avec pour bilan au moins 15 morts et plus de 100 000 personnes affectées. Amnesty International dénonce dans un récent communiqué le manque de volonté des autorités britanniques de traduire en justice cette multinationale. Tatiana Mosso.
Trafigura. L'entreprise spécialisée dans les matières premières reste dans le collimateur des défenseurs des droits de l'homme. En mars 2014, Amnesty International saisissait la justice britannique pour déterminer le rôle de Trafigura dans ce déversement. Réponse, ils reconnaissent ne pas disposer des outils ni des compétences nécessaires pour enquêter sur le géant du négoce. Amnesty International se base sur 5 ans d'enquête et 5000 pages d'un dossier contenant de nombreux éléments tendant à prouver que le personnel de Trafigura basé à Londres avait peut-être organisé de façon intentionnelle le déversement des déchets en Côte d'Ivoire. La synthèse souligne au passage que l'affaire Trafigura n'est pas une exception. D'autres entreprises basées au Royaume-Uni seraient coupables à l'étranger de crimes environnementaux et de violations des droits de l'homme.
La lutte contre le groupe État islamique maintenant. L'aviation turque a effectué des raids aériens ce matin contre les positions du groupe dans la province frontalière syrienne de Kilis. Dans le même temps, vaste coup de filet de la police turque aujourd'hui contre des éléments de l'État islamique et des rebelles du PKK kurde dans 13 provinces en Turquie même. Le premier ministre turc Ahmet Davutoglu a précisé que l'offensive policière contre ces deux groupes va continuer. Ces nouveaux développements font suite à la décision décision d'Ankara de laisser les États-Unis utiliser la base aérienne turque d'Incirlik dans le sud du pays pour attaquer les militants de l'État islamique en Syrie. Et vous terminez ici à Washington, le secrétaire d'État John Kerry et ses collègues de l'énergie et du trésor ont défendu lors d'une audience au Sénat américain hier l'accord nucléaire conclu la semaine dernière entre l'Iran et six grandes puissances, dont les États-Unis. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com et également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.